Alors, je vous propose de continuer notre journée et je vais vous présenter les données de la recherche, quelques données de la recherche sur le concept de professionnalité. Dans un premier temps, je ferai un rappel sur le contexte d'apparition donc, de cette notion. Ensuite, je vous donnerai quelques résultats de la recherche contemporaine sur le sujet qui nous intéresse. Et ensuite, je vous présenterai des éléments de compréhension des dynamiques de la professionnalité chez des professeurs de PS et les éléments du contexte qui font que le contexte est plus stimulant et plus favorable à un développement ou à une transformation de la professionnalité. Alors tout d'abord, je vais resituer le terme de professionnalité dans son contexte d'apparition qui est lié à la mise en place des IUFM au début des années 90. Donc c'est intimement lié à ce processus de mise en place des IUFM et c'est toujours au cœur des SP depuis septembre. Alors SP, École supérieure du professorat et de l'éducation, depuis la rentrée 2013. Alors Bourdoncle en 91 décrit trois mouvements. Je vais reprendre ma phrase parce que c'est pour que ça soit plus compréhensible. Donc les IUFM ont instauré la logique de professionnalisation du métier d'enseignant. L'idée des IUFM, c'était de professionnaliser les enseignants. Et donc on est toujours dans ce mouvement de professionnalisation, mais à l'intérieur de ce mouvement de professionnalisation, il y a trois sous-mouvements, si vous voulez, qui sont décrits par Bourdoncle en 91 de la façon suivante. Alors, il y a un premier mouvement qu'il appelle le professionnisme et qui correspond à la détermination des conditions d'exercice d'une activité dans un espace circonscrit, aussi bien du point de vue des individus que du collectif, que de la structuration du collectif. Alors, ça renvoie à l'idée qu'on avait, ça renvoie à l'idée du corporatisme. Et pour vous préciser, je vais prendre un exemple. En éducation physique et sportive, la création du statut de professeur de PS date de 1981. Donc, elle définit une activité dans un champ particulier. Ils enseignent dans le second degré, ils peuvent aussi avoir des missions dans le premier degré ou dans le supérieur, et ils enseignent l'éducation physique et sportive. Ce statut-là est différent du professeur de sport, par exemple, qui n'a pas... Les professeurs de sport relèvent du ministère de jeunesse et sport et ont des compétences différentes et des prérogatives différentes. Voilà, c'est une structuration sociale d'une profession, la détermination d'un espace d'action de professionnels. Ensuite, le deuxième mouvement de la professionnalité, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme, ça correspond, si vous voulez, à la socialisation professionnelle, au partage de discours et de rhétorique. Ce qu'il est bon de faire lorsque l'on enseigne ce métier, lorsque l'on travaille, lorsque l'on enseigne, par exemple, telle discipline ou telle autre, où il peut y avoir une socialisation professionnelle en ZEP. Il y a des rhétoriques qui sont spécifiques à l'éducation prioritaire. Je dis ZEP, mais je devrais dire éducation prioritaire. Voilà, donc le professionnalisme, c'est le fait de partager des idées et des rhétoriques et des discours communs. Ensuite, le troisième mouvement, c'est la professionnalité qui correspond à l'élaboration de savoirs plus ou moins rationalisés, de capacités, de compétences mises en œuvre dans l'exercice du métier. Alors ça, c'est la définition qui était à l'origine des IUFM. L'intention, donc cette approche s'est progressivement enrichie et L'idée, c'était de faire en sorte que l'enseignant soit un praticien réflexif sur sa propre façon d'enseigner pour la transformer. Il n'est pas simplement un fonctionnaire chargé d'attendre, de mettre en œuvre un programme. On lui demande d'être capable de réfléchir sur sa propre activité. Mais face à l'évolution des politiques éducatives qui demandent une plus grande efficacité des enseignants, tout en visant une élévation du niveau des élèves, accompagner ce que je dis ce matin, individualiser l'enseignement, contribuer aussi à l'orientation des élèves, enfin une diversification des tâches de l'enseignant, réfléchir sur sa pratique ne suffit plus. Il est demandé désormais d'intégrer dans sa pratique les nouvelles prescriptions. La professionnalité s'entend comme une combinaison de capacités, de savoirs d'origine diverses, personnelles ou professionnelles, pour mettre en œuvre la prescription auprès des élèves, c'est-à-dire de transformer la prescription en situation de travail avec des gestes adaptés tout en respectant des règles éthiques. C'est-à-dire qu'on voit derrière apparaître cette définition, c'est on voit des gestes professionnels qui n'ont lieu d'être que dans l'espace scolaire. Et il y a la dimension éthique, c'est-à-dire qu'il y a des décisions lorsque l'on note les élèves, lorsqu'on décide d'une orientation, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, ça renvoie à des décisions, à la justice scolaire, c'est-à-dire être juste dans un milieu scolaire. Donc ça renvoie à ces notions-là. Donc, en résumé, finalement, la professionnalité, c'est être pro. Et cette professionnalité, elle s'enracine, elle se développe, elle se construit dans la formation et dans l'entrée dans le métier, mais elle est toujours en mouvement. C'est un processus dynamique qui s'externalise dans l'acte d'enseigner et d'évaluer, mais aussi dans toutes les tâches qui sont dévolues à l'enseignant, dont les recherches montrent l'extension et l'intensification. Donc là, j'ai cité Marois 2008. C'est vraiment une professionnalité accrue qui est demandée, donc qui suppose l'adaptation au contexte et qui installe l'enseignant dans une dynamique de changement. C'est ce que Witorski appelle le développement professionnel. Alors, cette approche-là, donc c'est celle qui nous intéresse, qui est centrée sur la conception et l'exercice du métier et ses ressorts, c'est la professionnalité effective qui ne se confond pas avec la professionnalité qui est mobilisée comme un outil de pilotage dans une période, dans la période actuelle, qui est caractérisée de postes bureaucratiques, de régulation des systèmes éducatifs. Donc, c'est pas celle qui est prescrite, mais on est dans ce dont je vais vous parler, c'est la professionnalité effective en acte. Alors, la professionnalité enseignante, elle se construit dès la formation et elle résulte d'une construction multifactorielle. Donc là, je reprends les propos de Roux Pérez en 2012. Et elle est aussi fonction de l'itinéraire de l'enseignant, enfin des itinéraires, l'itinéraire avant d'entrer dans le métier, et puis aussi de l'itinéraire de l'enseignant tout au long de sa carrière. Pour cet auteur, un des éléments de la professionnalité, c'est la construction aussi de son identité professionnelle. Ensuite, parmi les éléments de constitution de la professionnalité, il y a des ressources que les futurs enseignants trouvent dans la formation. Alors, ces ressources, Vinatier les a étudiés chez les enseignants stagiaires d'économie-gestion, tout au long de leur première année d'exercice. Donc, là, pour cet auteur, la formation permet de décomplexifier les interactions avec les élèves. Et en début d'année, ces enseignants entrant dans le métier, stagiaires, ont besoin de ressources pour installer leur statut. Donc, ce sont les ressources prioritaires dans leur année de formation. Donc, pour installer leur statut de professeur stagiaire face aux élèves et pour construire leur autorité. Pour eux, c'est la priorité de début d'année. Ensuite, la construction des savoirs chez les élèves devient une priorité aussi. C'est-à-dire qu'il y a, une temporalité tout au long de l'année. Et cette priorité sur la construction des savoirs des élèves, elle est aussi accompagnée dans la construction du sens du métier pour ces enseignants stagiaires. Donc, pour cet auteur, elle a mis en place des situations particulières de co-explicitation et les ressources de la formation contribuent à nourrir la professionnalité de ces stagiaires. Un autre élément qui contribue à la construction de la professionnalité est lié à la discipline enseignée et au curriculum de formation. Harley, en 2012, s'est intéressé à la place de l'histoire de la discipline scolaire dans la formation initiale des enseignants. Et les faits, elle a mis en relation la place et la nature de cet enseignement sur l'histoire de la discipline avec la façon de s'approprier les savoirs scolaires et la distance par rapport aux savoirs scolaires chez des enseignants stagiaires aussi. Donc elle s'est appuyée sur trois disciplines. La première, c'est l'éducation physique et sportive. Donc elle a observé que les étudiants qui venaient de la filière STAPS et qui se destinaient au métier d'enseignant, de professeur de PS, ont donc vécu un enseignement sur l'histoire et un enseignement socio-historique sur l'histoire de la discipline EPS dans leur formation. Ensuite, elle a étudié elle a comparé avec les professeurs de maths qui, eux, ont eu une formation sur l'histoire des mathématiques et l'histoire des IREM, la place des IREM. Voilà. Et troisième discipline sur laquelle elle s'est appuyée, elle est allée voir ce que les professeurs stagiaires de sciences économiques et sociales avaient eu comme formation sur la discipline. Alors, cet auteur précise que qu'en sciences économiques et sociales, c'est une discipline jeune, dont les savoirs sont encore controversés et ces enseignants ont eu très peu d'heures lors d'enseignement sur l'histoire de leur discipline. Et elle s'est rendue compte que la posture des enseignants stagiaires par rapport au savoir et par rapport au curriculum scolaire et la posture réflexive et la distance par rapport au savoir lorsqu'ils apprennent le métier est différente en fonction de la durée et de la nature de l'enseignement de l'histoire de la discipline. Alors, effectivement, aussi, le passage à la masterisation va changer le profil, la construction de la professionnalité. Alors, je vous dirai juste quelques mots là-dessus parce qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas de données de recherche qui ont été publiées. Au laboratoire ECP auquel j'appartiens, on a engagé une recherche ce sont des professeurs des écoles. On a engagé une recherche sur ces néo-enseignants qui sont sortis, qui ont commencé à enseigner dès qu'ils ont été titulaires d'un master 2. Alors, un des premiers constats que l'on fait, c'est qu'ils ont un haut niveau d'analyse des situations professionnelles. et qu'ils identifient aussi les ressources dont ils ont besoin et qu'ils vont identifier chez leurs collègues ou chez les personnes des compétences auprès d'autres personnels et ils s'organisent pour pouvoir en bénéficier. Alors ça, ça fait partie des éléments de construction de leur professionnalité, c'est-à-dire qu'ils arrivent à identifier ce dont ils ont besoin et à aller chercher là, chez les personnes qu'ils ont identifiées, faire en sorte d'y avoir accès à ces ressources. Voilà. Il y a aussi un autre élément qui... Enfin, pour l'instant, on n'a pas fini les analyses, mais il y a aussi, dans l'apprentissage du métier, dans la façon de l'exercer, il planifie, il programme et il planifie en fonction du coût du travail que ça leur, voilà, que ça leur procure. C'est-à-dire que ce qui est plus facilement accessible et qui leur permet de moins dépenser d'énergie, c'est fait prioritairement et après... ils projettent plus loin ce qui est plus compliqué et qui leur demande plus d'énergie. Et autre élément qui structure leur professionnalité, ils cherchent à construire leur légitimité auprès des parents. C'est une priorité. Alors voilà, je vais pas en dire plus parce que on est en cours d'analyse des données. Voilà. Ça, ce sont quelques éléments qui contribuent à la construction de la professionnalité chez les enseignants stagiaires. Alors, un élément qui contribue donc à la construction de la professionnalité, à son développement, à l'évolution, c'est le contexte d'exercice. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le contexte des lycées professionnels. Alors, on l'a déjà dit aujourd'hui, mais je vais quand même faire référence aux auteurs qui en ont parlé. Donc, un des éléments du contexte, ce sont les élèves donc, qui arrivent au lycée professionnel, que GLAB appelle les vaincus du collège, et qui sont souvent, qui ont besoin de réapprendre les normes scolaires, donc de réapprendre le métier d'élève, et qui arrivent, qui sont souvent orientés pour la majorité, par défaut au niveau du lycée professionnel. Un autre élément du contexte, lorsqu'on s'intéresse à la professionnalité, c'est le groupe professionnel lui-même, le groupe des enseignants de lycée professionnel. Alors, c'est un groupe professionnel très hétérogène, avec des itinéraires, alors, hétérogène par rapport aux enseignants de collège ou aux enseignants de lycée, hein, je n'ai pas donné le point de comparaison, qui sont pourvus d'itinéraires avant de rentrer dans le métier, très variés, et qui ont des venues au métier qui sont aussi très diverses. Donc, ces itinéraires contribuent aussi à... dans leurs itinéraires, ils mobilisent des ressources pour construire leur professionnalité. Donc, effectivement, il y a des éléments très différents des uns aux autres. Voilà, donc, je vais passer au résultat. Je vais quand même vous dire deux mots d'une recherche qui a été faite par Roux Pérez et par Troget chez les enseignants stagiaires. Donc, ils ont fait cette recherche sur l'Académie de Nantes. Donc, je vous le dis oralement, je n'ai pas de diapo. Ils sont allés étudier l'entrée dans le métier, enfin la façon d'aborder le métier, la première année de stage, chez des enseignants de lycée professionnel. Et donc, ils se sont rendus compte que ces enseignants, le premier contact, enfin, ils ont observé que le premier contact avec les élèves, c'est le choc avec la réalité. C'est la première épreuve pour entrer dans le métier. Alors, c'est ce que Rayou et Van Zanten avaient déjà observé chez les enseignants du collège, des collèges de la périphérie dans leur ouvrage en 2004. C'est-à-dire que, quelque part, ces enseignants, pour arriver à enseigner, ils sont obligés de passer par un cap qu'ils ont nommé « faire le deuil de la discipline » pour pouvoir rentrer dans le métier. Donc, Pérez, Roux et Troget ont observé, font la même observation chez les enseignants de LP. Et par contre, ces enseignants, ils cherchent tous à créer des situations innovantes. Alors, je reprends l'expression des improvisations originales pour capter l'attention des élèves et pour faire en sorte pour les intéresser aux apprentissages. Mais s'ils cherchent tous, si c'est la même visée qu'ils partagent, ces enseignants stagiaires, ils ont pu identifier deux logiques différentes, deux tendances. D'un côté, des enseignants qui s'intéressent aux jeunes dans leur globalité, qui sont sur le registre de l'éducatif, voire qui font preuve de compassion auprès des élèves. Alors, et qui puisent leurs ressources, j'allais dire, dans le domaine domestique, qui font preuve de logique, qui s'apparentent à de la logique domestique. Et un autre groupe d'enseignants qui s'appuie plus sur des problèmes techniques, sur des outils, sur des objets, pour mobiliser, pour intéresser les élèves à une activité. Donc là, ça renverrait plus à une logique industrielle. Alors qu'ils ont la même intention, qu'ils recherchent la même intention, il y a deux tendances qui se profilent. Et donc, les auteurs de la recherche ont pu raccrocher ces tendances. Donc, ces tendances sont corrélées au parcours antérieur de ces enseignants. Les premiers qui sont plus sur l'éducatif ou sur le registre domestique sont issus d'un cursus universitaire, donc ils ont fait un cursus universitaire et ils ont réussi le concours de professeur de lycée professionnel, alors que les seconds, qui sont plus sur les objets, à intéresser les élèves par les objets ou par les situations pratiques, ils sont issus du milieu professionnel, conduite routière, métier du bois. En l'occurrence, dans cet échantillon-là d'enseignants. Alors, ce que Troget observe, c'est une variation dans ces tendances, c'est-à-dire que dans une enquête antérieure, il avait observé que c'était plus lié au genre. Il avait observé que c'était plus les enseignantes femmes qui faisaient référence à la logique domestique, et les enseignants hommes qui faisaient référence à la logique industrielle, enfin voilà, pour faire rapidement. Et là, ils ont identifié, ils ont mis en relation avec l'itinéraire précédant l'arrivée dans le métier. Voilà, donc ce sont des informations que fournies par la recherche. Voilà. Après, ce sont des informations à débattre, enfin ce sont des données à débattre, hein, parce que c'est une enquête qualitative qui est située, enfin qui est localisée dans un endroit. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant les éléments de compréhension de la professionnalité des enseignants d'EPS qui exercent en lycée professionnel. Donc c'est la recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse. Et alors effectivement, ils n'ont pas tout à fait le même itinéraire que les autres enseignants de LP, puisque eux, ils sont nommés en lycée pro suite à une mutation et souvent par défaut. Et aussi, lors de leur formation, l'enseignement de l'EPS en lycée professionnel est peu abordé. C'est pas une spécificité de la formation, de l'enseignement, de la préparation au métier de professeur d'EPS. Autre élément pour comprendre pourquoi je suis allée m'intéresser à ces enseignants-là, c'est que l'éducation physique est encore une discipline jeune. Dans la voie professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est en voie de scolarisation, dans le sens où le premier programme d'EPS a été publié en 2002. Donc c'est assez récent et que c'est une discipline qui est en cours de scolarisation et qui légitime ses contenus dans un espace particulier. Alors là, je fais référence à la forme scolaire qui est décrite par Vincent, c'est-à-dire que les savoirs scolaires, la forme scolaire, elle se caractérise par une répétition d'exercices particuliers, des évaluations dans un temps particulier, il y a un espace particulier, et c'est de contenus d'enseignement qui n'ont de sens que dans cet espace-là. Ils ne sont pas évalués de la même façon et ils ne sont pas appris de la même façon dans un autre espace. Donc l'EPS y voit une légitimation aussi, une légitimité en se scolarisant. Alors je me suis emparée de la réforme du contrôle en cours de formation, du CCF, dans cette discipline pour aller voir comment les enseignants mettaient en place et en quoi cette nouvelle réforme venait perturber le travail ordinaire des enseignants. Alors, autre élément de compréhension, la réforme du CCF, elle uniformise les situations d'évaluation d'épreuves. Les épreuves de CCF étaient très diverses dans tous les LP de France, sur tout le territoire français. Donc la réforme du CCF implique donc définit un dispositif, une situation d'évaluation particulière. Donc elle standardise les épreuves de CCF. Alors je me suis donc interrogée, je suis allée observer les professeurs de PS avec cette question-là en me disant comment les professeurs de PS qui étaient déjà en exercice dans le LP au moment de la réforme abordent cette nouvelle prescription, comment ils la mettent en œuvre avec les élèves, et d'autre part comment des nouveaux enseignants des enseignants entrant dans le métier, qui ont moins de 5 ans d'ancienneté et qui arrivent en LP au moment où je suis, en même temps que la réforme du CCF, est-ce que ces deux populations d'enseignants vont mettre en place de la même façon cette réforme ? Voilà, l'idée, c'est que le CCF, pour moi, a été un levier pour accéder au métier et au ressort de construction du métier et au ressort de la professionnalité. Voilà. Préciser donc ma problématique initiale. Donc ma problématique, c'est il risque d'y avoir une mise en œuvre différente selon que l'on soit enseignant déjà là dans l'établissement au moment de la publication de la réforme et nouvel arrivant dans le LP, sachant que ces nouveaux arrivants, ce sont des jeunes enseignants qui ont moins de 5 ans d'ancienneté et qui ont exercé avant soit en collège soit en lycée et qui découvrent le lycée professionnel. Voilà. Alors, je suis allée recueillir, donc j'ai utilisé une méthode qualitative et je suis allée faire des entretiens auprès des enseignants qui étaient déjà en place dans les états, qui exerçaient déjà dans les lycées professionnels. Et donc j'ai utilisé une méthode ethnographique. Je suis allée les rencontrer, je suis allée les observer et j'ai fait des entretiens. Mais j'ai aussi utilisé des outils de la clinique de l'activité et j'ai pu aller les filmer pendant qu'ils faisaient passer des épreuves de CCF. Et cette captation d'images m'a permis aussi de faire des autoconfrontations avec ces enseignants pour aller comprendre les raisons pour lesquelles ils faisaient comme ça et pas autrement avec ces élèves. Voilà sur la méthode de recueil des données. De l'autre côté, je suis pour les enseignants entrant dans le métier, j'ai fait des entretiens avec eux et je leur ai montré l'autoconfrontation des enseignants expérimentés et je leur ai demandé comment eux mettaient en place le nouveau dispositif. Et j'ai utilisé J'ai utilisé, mon recueil de données a été fait de façon différente pour mes deux populations d'enseignants, parce que les entrants dans le métier sont connus pour être déstabilisés, avoir des difficultés lorsqu'ils arrivent dans un environnement nouveau et dans un lieu d'exercice considéré comme difficile. Et donc du coup, je ne suis pas allée les filmer pendant une épreuve de CCF pour pas déstabiliser le déroulement du cours. Voilà. J'ai analysé mes données à partir de données de la sociologie. Alors d'une part, j'ai utilisé les logiques d'action développées par Boltanski et Thévenot. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des logiques d'action des acteurs, j'ai parlé de la logique domestique, de la logique industrielle. Il y a d'autres logiques, la logique civique par exemple, qui ont été développées donc par ces sociologues. L'idée, c'est que cette logique, elle n'est pas développée uniquement par les acteurs, mais elle se retrouve dans les dispositifs, elle se retrouve aussi dans les objets. Voilà. Ensuite, ces logiques d'action, elles ont été développées dans le champ d'éducation par Derouet. Et aussi, je me suis appuyée sur l'enquête faite par Rayou et Van Zanten auprès des nouveaux enseignants de collège, et eux ont décrit une nouvelle professionnalité. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. On repérait une nouvelle professionnalité auprès de ces enseignants entrant dans le métier. Alors, ces enseignants entrant dans le métier, ils rentrent moins sur des valeurs que les enseignants, leurs aînés, mais ils rentrent plus sur l'approche pragmatique du métier. Ça, c'est la première chose qui les caractérise. Deuxième élément, c'est ce qui affichait la mobilisation horizontale, c'est-à-dire que ils arrivent dans le métier et souvent ils sont remplaçants, donc ils vont une fois dans un établissement, une fois dans l'autre, ils sont affectés dans différents établissements et eux, ils vivent ces différentes affectations comme une façon, ces multiples expériences, comme une façon de nourrir le métier. C'est-à-dire la mobilisation horizontale, ces différentes expériences nourrissent le métier, leur permet d'apprendre le métier dans différents contextes. Troisième élément, c'est l'engagement dans les collectifs de travail. L'enquête, elle a été réalisée dans la région, au niveau de Paris et de la périphérie, et effectivement, ces enseignants ont été affectés dans des collèges un peu difficiles, et du coup, ces nouveaux enseignants, ils ont éprouvé le besoin, plus que les enseignants chevronnés, de rester ensemble et de partager les problèmes de métier avec leurs collègues pour échanger sur les difficultés du métier. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils investissent plus les collectifs de travail. Alors, voilà, à partir de mes données, avec mes deux groupes, avec mon recueil sur deux groupes différents d'enseignants, j'ai élaboré une typologie. Alors, la typologie que je vous présente, il faut la lire comme un outil de compréhension du réel. C'est une modélisation. Dans la réalité, les enseignants ne sont pas tous comme ça. Ils tendent à ressembler à, c'est-à-dire sont des grandes tendances. Alors, parmi les enseignants qui étaient déjà en exercice, ils se répartissent dans deux grands types, deux grandes tendances. D'un côté, les enseignants expérimentés, qui vivent le métier comme une vocation et qui mobilisent majoritairement la logique domestique pour exercer le métier. De l'autre, alors je vais présenter ma typologie, je vais passer donc de gauche à droite, et de l'autre côté, les entrants dans le métier, ils endossent donc les caractéristiques des nouveaux enseignants tels que Rayou et Van Zanten les avaient décrits Mais moi, j'ai approfondi, j'ai précisé d'autres caractéristiques. Alors, ce sont des enseignants qui rentrent dans le métier et qui le vivent sur le registre pragmatique. Et ils mettent en place la logique de l'efficacité scolaire. Alors, ce que j'ai appelé la logique de l'efficacité scolaire, c'est-à-dire qu'ils renvoient toujours à la dimension scolaire, la justification et les arguments sont toujours en relation avec ce qui se passe dans le domaine scolaire. Et parmi les enseignants qui étaient déjà là lorsque la réforme est arrivée, il y a des enseignants qui sont des enseignants hybrides dont la professionnalité est en cours de mutation et ces enseignants, ils ont tendance à ressembler aux nouveaux enseignants. Voilà. Alors, le résultat de ma première hypothèse, c'est que d'un côté, on a la vocation qui est mise à l'épreuve. Le nouveau CCF, il met à l'épreuve le métier, il met à l'épreuve la vocation, le métier vécu comme une vocation. Et de l'autre côté, on a des nouveaux enseignants qui dynamisent les règles du jeu scolaire. Alors, jeu scolaire, je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est un extrait d'entretien d'une néo-enseignante. C'est pour ça que je l'utilise, mais que je le mets entre guillemets. Voilà. Alors, pour présenter les éléments différenciateurs entre les expérimentés et les nouveaux, je me propose de faire un parallèle entre les deux extrémités du tableau, sachant qu'au milieu, on peut faire bouger le curseur. Donc, trois éléments différenciateurs entre ces deux populations. Tout d'abord, la construction de la bonne distance. Ensuite, l'engagement dans les collectifs de travail. Et ensuite, la mise en règle, c'est-à-dire la mise en forme, la mise en règle du travail scolaire et aussi du travail de l'enseignant. Alors, les nouveaux enseignants... Mes données m'ont permis de faire apparaître que les nouveaux enseignants, en fonction du contexte d'enseignement dans lequel ils étaient, ils construisaient une distance différente. Donc, il y a trois contextes qui apparaissent. Il y a le contexte du pédagogique collectif, c'est-à-dire ça, c'est le début de cours, c'est lorsque l'enseignant adresse des consignes aux élèves. Donc, le face-à-face pédagogique collectif. Dans ce cadre-là, ces néo-enseignants ont construit une distance. J'ai appelé ça une distance construite. Ensuite, il y a un autre contexte, le contexte pédagogique individuel qui correspond au temps de remédiation individuelle ou par petits groupes, où il y a une distance plus proximale avec l'élève. Et la troisième distance construite mise en place par les enseignants débutants, c'est la distance institutionnalisée qui est mise en place lors du CCF. Alors, cette distance institutionnalisée, elle différencie vraiment les nouveaux enseignants des enseignants expérimentés. Alors, je vais préciser la distance institutionnalisée puisque c'est essentiellement là-dessus que j'ai travaillé. Donc, ils mettent en place, donc il y a cette distance institutionalisée. Est-ce que j'ai une... Non, voilà. Elle se caractérise par un positionnement particulier des enseignants. L'enseignant est en supervision, il a un placement en supervision qui lui permet de surveiller la classe, de gérer à la fois la notation et la gestion des élèves. Et il y a une organisation très rationalisée des espaces. Je vous rappelle que les professeurs de PS, lorsqu'ils notent, ils sont soit dans un gymnase, soit dans une salle de danse, donc ils sont dans un espace qui n'est pas toujours à usage scolaire. Donc là, ils reconstruisent, ils réorganisent l'espace. Et donc, lors du CCF, il y a une organisation des espaces, les élèves qui attendent d'être notés, l'enseignant qui supervise, l'espace où il y a les élèves qui sont notés et parfois un espace avec le matériel. Et tout ça est organisé en amont. Et ensuite, il y a une présence du contrat, la façon dont alors ce que j'ai appelé le contrat de notation, la façon dont les élèves sont notés en termes compréhensibles par les élèves. Alors, cette distance, elle favorise l'installation de l'enseignant dans sa posture d'examinateur et elle est spécifique à ce contexte particulier du CCF, c'est-à-dire qu'elle ne se... elle ne se confond pas avec tout autre type d'évaluation. C'est pas une évaluation trimestrielle, c'est une évaluation du CCF. Et ces néo-enseignants construisent cette distance particulière qui leur permet aussi de s'installer dans la posture d'examinateur, mais il délègue aussi aux objets tous les savoirs dans cet espace. Il y a des objets dans lesquels il y a les savoirs sur lesquels les élèves vont être évalués, mais il y a aussi les règles de travail des élèves. Alors, les enseignants expérimentés utilisent très peu la distance institutionnalisée. Eux, ils commencent le jour où ils notent, le jour du CCF, ils commencent le cours comme un autre, et puis à un moment, donc ils sont dans la proximité avec les élèves, et puis il y a un moment où ils institutionnalisent une distance pour signifier aux élèves que, à partir de maintenant, je vous évalue. Donc, il y a cette distance qui est mise en place. Et puis après, au cours de l'évaluation, l'enseignant revient plus ou moins souvent ou dans la proximité avec les élèves. En conclusion donc de cette description, la professionnalité impose des statuts, donc des positions spatiales différentes. Dans le modèle vocationnel, donc chez les enseignants expérimentés, la personne constitue le pivot autour duquel est articulé l'enseignement. L'enseignant voué au métier s'appuie sur son art de manier les outils qui l'entourent pour donner une dimension officielle à l'épreuve de CCF. À l'inverse, les nouveaux enseignants, les enseignants qui arrivent dans le métier, ils institutionnalisent une distance. Cette distance, elle a été pensée, elle a été élaborée en amont et certainement lors de la formation pour que eux puissent se mettre dans la posture de l'examinateur, et elle est construite non pas par rapport à la personne mais par rapport au référentiel de travail. C'est-à-dire, référentiel de travail, c'est administration de consignes, c'est conseil ou c'est épreuve de certification. Donc on voit que pour les uns, ça tourne autour d'une situation de travail, et pour les autres, c'est autour de la personne se joue, j'allais dire, la professionnalité, la façon d'exercer. Autre élément qui différencie les deux catégories, c'est l'engagement dans les collectifs. Alors, les néo-enseignants ont une tendance à un engagement multiple et très dynamique dans différents réseaux. Donc, ils investissent aussi bien les réseaux réels. Alors, les réseaux réels, je vais m'expliquer, c'est-à-dire le collectif local, leurs collègues professeurs de PS de l'établissement ou bien du secteur, ou bien les enseignants des autres disciplines. Mais aussi, ils échangent aussi beaucoup avec les formateurs, et les inspecteurs sont aussi des partenaires possibles de travail pour les nouveaux enseignants. C'est pour ça que j'ai précisé qu'ils travaillent de façon multicatégorielle, c'est-à-dire qu'ils interagissent avec les différents professionnels. Ils investissent aussi largement les réseaux virtuels, c'est-à-dire qu'ils vont puiser ils vont rechercher donc des ressources auprès d'internautes, auprès de la communauté professionnelle virtuelle, et ils se rapprochent. Alors, je ne le voulais pas mis, mais ils se rapprochent par similarité. Alors là, je me suis référée, je vous donnerai, si ça vous intéresse, la référence d'une recherche qui a été faite sur les réseaux, justement. Ils se rapprochent par similarité. Donc, les partenaires du réseau par similarité sur les réseaux Internet et avec des professionnels qui partagent les mêmes problèmes qu'eux. Voilà. Ce que Bidard, Degen et Grossetti appellent, donc les partenaires de réseau qui sont sur les mêmes, la proximité, par similarité, ces auteurs appellent des alters, alors alters avec un A majuscule, voilà. Et ces nouveaux enseignants font aussi... Donc, construisent des règles aussi bien au niveau du collectif local que du collectif virtuel. Donc, ça leur permet aussi de savoir ce qui peut être attendu des élèves de LP par le biais d'Internet. Les enseignants expérimentés, eux, se cantonnent plus au collectif réel, et c'est-à-dire dans l'établissement ou dans le secteur, et ils échangent prioritairement entre pairs. La mise en règle, c'est-à-dire développer l'esprit scolaire de la situation, la dimension scolaire de l'épreuve de CCF. Alors, les nouveaux enseignants élaborent de nouvelles règles pour cette épreuve particulière et dont ils veulent doter ce CCF d'un véritable marquage scolaire. Donc, ils recherchent tout ce qui peut spécifier une épreuve d'examen scolaire. Et il leur affecte donc ce marquage. Et ces règles, elles sont extériorisées, comme je l'ai noté, mais non seulement elles sont extériorisées, mais elles nécessitent une explicitation et une appropriation par les élèves, donc en amont de la situation. Ces règles, elles sont mises au jour, mais elles sont travaillées avec les élèves et elles font l'objet d'un intéressement des élèves. Ainsi, dans cet espace d'intéressement, d'un côté, les élèves peuvent trouver un gain en matière de notes à l'examen, et de l'autre, l'enseignant y trouve un intérêt en termes de gestion et de contrôle des élèves, parce que les élèves qui sont intéressés et qui sont en situation d'apprentissage et d'investissement dans une situation, effectivement, ils sont moins perturbateurs au niveau scolaire. Alors, l'extériorisation des règles est un élément qui différencie les nouveaux enseignants des enseignants expérimentés, car ces derniers ont incorporé le métier, ils transportent en eux, sur eux, les règles du travail scolaire, c'est ce que j'ai appelé la monopolisation des règles, et ces règles, elles sont hautement personnalisées et souvent peu lisibles de l'extérieur. Mais aussi, ils considèrent, ces enseignants, ils considèrent que les règles sont un allant de soi, que les élèves ont intégré ces règles du travail scolaire. Ils le considèrent comme un allant de soi. Donc la publicisation des règles contribue à rendre lisibles les règles de fabrication de la note, mais aussi de déroulement de l'épreuve, parce que là, il y a le déroulement de l'épreuve, la programmation, etc. Cette publicisation contribue aussi au renforcement du séquençage scolaire, c'est-à-dire qu'il y a des cycles, il y a un cycle, donc ça renforce cette dimension de cycle, de séquençage, avec un cycle d'apprentissage et qui se termine par une évaluation certificative, en l'occurrence pour ce niveau-là. Donc, qui rappelle aux élèves donc les repères scolaires. Et cette façon-là contribue aussi à rendre de la fonctionnalité à l'école pour ses élèves en particulier. Alors, On vient de voir donc que les règles de métier liées à faire court sont différentes de celles d'évaluer une épreuve certificative. Le CCF n'apparaît plus aux élèves comme un élément parachuté et imposé, mais comme un élément appartenant à un ensemble et s'articulant à un ensemble sur lequel se déploie une dimension scolaire. Et oui, ce que je voulais préciser aussi, c'est souvent on entend les élèves qui disent « Ah ouais, non mais j'ai une sale note parce que le prof il m'aime pas ». Enfin, c'est des choses qu'on entend parce que j'ai une sale tête, etc. ou parce qu'il m'aime pas. Donc du coup, le fait de déléguer aux élèves donc les règles de notation, les règles comment on fait pour avoir la meilleure note possible, ça permet aussi aux enseignants de se dégager, de mettre à distance de ce système de notation, de mettre à distance le métier. En conclusion de ce point sur les différentes dynamiques de la professionnalité, on voit que d'un côté, on a des néo-enseignants qui mobilisent la logique de l'efficacité scolaire et qui sont porteurs d'une nouvelle professionnalité centrée sur le métier, avec des règles contextualisées et une éthique professionnelle. Alors, éthique professionnelle, ça renvoie, j'en ai pas beaucoup parlé, ça renvoie à l'idée de construire, de partager des règles avec d'autres professionnels. Donc, quand j'ai expliqué que les néo-enseignants, ils communiquaient ils étaient dans plusieurs mondes, dans le monde virtuel et dans le monde réel, dans plusieurs réseaux, ça leur permet de partager ces règles de métier, ce qui contribue à construire cette éthique professionnelle. Lorsque les règles sont partagées par un ensemble de professionnels, elles contribuent à construire l'éthique. On y reviendra peut-être dans l'échange. Voilà, ça c'est le point sur les néo-enseignants. D'un autre côté, les enseignants expérimentés mobilisent majoritairement la logique domestique et ils ont une professionnalité qui ressemble à un habit d'arlequin. C'est l'idée, quand j'utilise le terme habit d'arlequin, c'est-à-dire qu'il y a un ajout de prescriptions successives. Il n'y a pas un re-questionnement de l'ensemble, mais parce qu'on a peur de lâcher ce qu'on faisait avant, parce que ça nous permet de tenir, ça permet d'être enseignant aussi, et c'est une façon d'exercer le métier, mais du coup, ça repose sur la personne et du coup ça a un coût, ce qui explique, qui est ce qui permet d'expliquer aussi l'épuisement professionnel aussi, l'usure professionnelle, la fatigue professionnelle. Voilà, alors je prends beaucoup de temps. Un autre élément, je vous ai annoncé dans mon propos introductif que je voulais aborder, que j'avais pu identifier des éléments du contexte qui donnaient à ce contexte un caractère stimulant, un caractère engageant au développement de la professionnalité. Alors, j'ai pu repérer, alors je vais faire un va-et-vient sur les deux diapos, deux éléments qui y contribuent, ce que j'ai appelé la culture d'établissement, mais qu'on pourrait appeler la dynamique générale de l'établissement, mais aussi la composition de l'équipe disciplinaire. Alors, c'est un effet cumulatif et pas conjugué. Alors, parmi les dynamiques d'établissement, j'ai pu identifier dans certains établissements une logique de l'excellence. Dans un établissement qui était dans un secteur qui préparait à des métiers d'un secteur très concurrentiel, donc identifier une logique de l'excellence, donc un établissement qui sélectionne ses élèves à l'entrée et qui est, qui est très exigeant envers les élèves et qui a des mentions complémentaires, des BTS, etc. Donc qui développe qui n'est pas sur la logique de la réparation des élèves, mais qui est sur la logique de l'excellence, avec un management qui accompagne les équipes pédagogiques ou les innovations et qui offre une organisation du travail adéquate. Ce que j'entends là, c'est par exemple un alignement des classes pour pouvoir travailler ensemble, donc une organisation du travail. Une autre dynamique d'établissement qui s'inscrit sur la logique marchande et qui donne à voir, alors là, il y a des élèves qui ont besoin d'être préparés pour réussir. Il y a d'autres filières qui sélectionnent plus les élèves, mais la dynamique majoritaire de ce LP, c'est la logique marchande, c'est-à-dire la logique qui donne à voir ce qui est fait dans l'établissement, les projets, qui donne à voir, par exemple, la réussite et qui communique à l'extérieur ce qui est fait avec les élèves. Ah donc, je parle aussi dans cet établissement, il y a un management qui accompagne les équipes pédagogiques autour de différents projets qui visent la réussite des élèves. Voilà. Alors, à l'inverse, ça, ce sont des logiques qui sont associées à la composition de l'équipe qui contribue au développement de la professionnalité. Alors, ces deux logiques associées à une composition de l'équipe disciplinaire, une composition qui est hétérogène, donc j'ai hétérogène par rapport à la typologie que j'ai fait en amont, c'est-à-dire composée de néo-enseignants, d'hybrides et d'enseignants expérimentés. Une composition hétérogène avec un collectif élargi. Alors je dis collectif élargi, c'est le mode de fonctionnement, c'est-à-dire le mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas uniquement à l'intérieur de la discipline, mais qui travaille avec les autres personnels de l'établissement, avec la vie scolaire, avec l'administration, mais qui communique aussi sur l'extérieur. C'est ce mode de fonctionnement, c'est ce type de fonctionnement-là, quand je parle collectif élargi, le mot est peut-être impropre, mais c'est cette idée-là qu'il faut retenir, c'est une composition hétérogène avec un collectif élargi. Dans un établissement où il y a une logique marchande ou avec un management accompagnant, ces éléments du contexte contribuent au développement de la professionnalité. Et alors, un établissement où il y a une logique plus domestique, où chaque filière fonctionne de façon autonome sans qu'il y ait, j'allais dire, d'accompagnement et sans avoir sans accompagnement ou sans retour, où c'est très segmenté, voilà, c'est peu propice au développement, au questionnement de la professionnalité. Voilà, je suis un peu longue, je m'en excuse. Donc l'idée, ce que j'ai pu mettre en évidence. Et donc, ces différentes dynamiques de la professionnalité. Donc, la professionnalité, elle est multifactorielle, elle est liée au contexte. Et on voit qu'il y a des ressorts différents qui ont été mis à jour. Mais j'imagine que ces différents ressorts dans cette discipline peuvent être aussi perceptibles dans d'autres disciplines du lycée professionnel ou même dans d'autres contextes d'enseignement. Voilà, où les élèves ont besoin de réapprendre les règles du travail scolaire. Voilà, je suis désolée. Ah oui, sur la diapo... vous voyez inscrit collectif de travail et clos. Alors je vais préciser pour clos, un collectif de travail, c'est un collectif dans lequel il y a des controverses professionnelles, où le métier est questionné, où il est débattu, il est remis en débat, et dans lequel les professionnels s'entendent, passent des accords. Il appelle ça des conventions sur les règles de métier, où il y a des règles de métier qui sont partagées entre les professionnels, et c'est ce qui permet de travailler. Donc ça, c'est la définition qui est donnée par Clos dans l'analyse du travail. Donc collectif de travail, ça veut dire ça chez Claude. Alors, par contre, il y a d'autres collectifs qui permettent de travailler, des collectifs qui permettent de travailler, mais qui ne sont, qu'on ne peut pas appeler des collectifs de travail dans le sens de Claude. Voilà. Je vous remercie. J'ai été un peu longue, mais... voilà, donc, ça, c'est toute la bibliographie. Et... ah oui, ça c'était un extrait d'entretien d'une enseignante expérimentée et qui explique, voilà, c'est une illustration, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui s'affiche. On est père, on est mère, on est assistante sociale, on doit être caméléon, voilà, l'enseignant caméléon qui souhaite intervenir sur toutes ces facettes et c'est... c'est très compliqué et donc c'est un mode de fonctionnement sur la logique domestique. Voilà, ça c'est une illustration de ce que peut être la logique domestique dans l'exercice d'équipe. Voilà, donc je vous propose d'échanger. Si ça a résonné. Alors. Je vais quand même préciser, c'est une modélisation, on n'est pas tout l'un, on n'est pas tout l'autre, et c'est simplement, c'est quelque chose, c'est pour comprendre, c'est un modèle pour comprendre. Voilà, c'est, il n'y a pas de jugement derrière la présentation. C'est un modèle de compréhension, voilà.